Vous êtes sur RTL. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour votre émission de ce 19 octobre. On refait le match. Nous allons évoquer évidemment un maximum de sujets chauds. En vivant ensemble, Lyon-Dijon bien sûr. Rudy Garcia arrive à Lyon. Un pari risqué, oui ou non? Il brille de mille feux. Question un petit peu provoque bien sûr, surtout pour David Ayello qui me regarde bizarrement. Angel Di Maria, l'argentin du PSG. Futur ballon d'or finalement, pourquoi pas? Et puis en exclusivité sur RTL, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a fustigé certains clubs à propos de joueurs blessés. Des polémiques qui sont nées de ce débat, polémique avec Chelsea, avec le Bayern Munich. Comprenez-vous sa réaction. Nous sommes ce soir avec Cindy Colmenares. Bonsoir Cindy.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Cindy?
Super.
Baptiste Després du Figaro.
Bonsoir Denis.
Bonsoir,
bonsoir
Baptiste. Tout le monde. Très calme, très posé. Pour l'instant.
On est concentré.
David Ayello, Yahoo Sport. Bonsoir David.
Bonsoir, effectivement, j'ai écouté votre lancement avec attention.
Et Florian Gazan, un grand plaisir de vous retrouver Florian, bonsoir.
Bonsoir Denis.
À la mi-temps, Lyon et Dijon sont à égalité 0-0. Nous retrouvons sur place évidemment dans quelques instants Willy Messonas, notre envoyé spécial. Une page de pub et nous revenons sur RTL. À tout de suite.
RTL, on refait le match. Suite FM.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Avec Cindy Colmenares, David Ayello, Yahoo Sport, Florian Gazan et Baptiste Després du Figaro. Nous allons tout de suite aller à Lyon. Willy Messonas, première période, Lyon-Dijon. 0-0, c'est le score à la pause. Et surtout, Willy, on va évoquer ces sifflets qui ont accueilli le nom de Rudy Garcia à la composition des équipes. Et puis les banderoles d'une violence assez forte quand même, qui ont accueilli également l'ancien entraîneur de l'OM.
Oui, exactement. Bonsoir Denis, bonsoir à tous. C'est vrai, des banderoles déployées par les virages, notamment nord et sud, du Groupama Stadium, banderole cinglante à l'écart des joueurs déjà suite au derby. Joueurs, un derby honteux, deux entraîneurs en 6 mois. Et si c'était vous le problème, voilà ce qu'on pouvait lire du côté du virage nord et du côté du virage sud. Nouvelle trahison avec cette date du 6 octobre, date du derby évidemment, et cette défaite face à Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Nouvelle trahison, vous êtes des lâches. Et Rudy Garcia lui aussi a eu droit à sa banderole. Notre patience sera égale au respect que tu as montré au club. Nul. Voilà. Et puis bien sûr, vous l'avez dit, il y a eu ces sifflets nourris à l'encontre du nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais.
Alors merci Willy, on se retrouve évidemment à la reprise. Il y a 0-0 à la pause.
À l'instant, le coup d'envoi de cette deuxième période.
Très bien.
Après 45 premières minutes, assez triste tout de même, c'est à signaler. Le mal est profond du côté de l'Olympique Lyonnais.
Oui, on verra ça justement, s'il va s'approfondir ou non en seconde période. La question, donc Rudy Garcia à Lyon, pari risqué ou pas? Baptiste Després du Figaro.
Moi je trouve que oui, clairement c'est un pari risqué, parce que quand vous débarquez comme ça à Lyon, on l'a vu tout de suite là ce soir à Lyon, la banderole, le contexte, enfin c'est ultra difficile. Il est dans le bain d'habitude quand il y a un nouvel entraîneur, pardon je parle dans le micro, quand il y a un nouvel entraîneur il y a toujours une petite forme d'état de grâce. Et là aujourd'hui il n'y a pas du tout d'état de grâce. Rudy Garcia va être jugé sur les premiers matchs, il n'aura pas le temps d'attendre, pas le temps d'avoir des résultats, et ça me semble très compliqué pour Rudy Garcia.
Moi j'ai une autre lecture par rapport à tout ça. Je me dis que certes l'ambiance elle est bouillante, il y a aussi un précédent, donc tout ça je l'entends, mais il y a également un facteur qui rentre en jeu, c'est que ça y est, c'est les deuxièmes entraîneurs, on commence à se rendre compte que les problèmes ne viendraient pas a priori non plus que de l'entraîneur. Enfin, au bout d'un moment, les joueurs, on voit qu'il y a une différence lorsqu'ils jouent contre des équipes à leur portée, on va dire, pour rester correct, et lorsqu'ils jouent contre des grandes équipes comme Leipzig. Donc là, les joueurs, ils jouent clairement pour leur tête. Et on les ressent, on le voit lors de ces matchs, en Terrier, il a raté quelques occasions, on ne les voit pas, en fait, au niveau de ce qu'il peut donner, tandis qu'Awar, bon, l'OL est toujours, se base toujours beaucoup sur ses joueurs, qui, lui, est plutôt au niveau actuellement. Il y a aussi l'absence des Depay, qui est certainement
fait quelque chose.
Mais en tout cas, lorsqu'ils sont à l'étranger, on voit très bien que les joueurs en Champions League, c'est deux personnes complètement différentes.
Alors Florian Gazan, les supporters de l'OL ont ciblé le problème, c'est pas l'entraîneur, ce sont les joueurs finalement, Florian Gazan.
Bah là pour le coup, le problème c'est tout le monde. Le problème c'est effectivement les joueurs, parce que malheureusement, quel que soit l'entraîneur, on a toujours le même problème à Lyon, à savoir que c'est une équipe qui est suffisante. Dès que c'est des gros matchs, ils jouent, dès que c'est des petits matchs, ils jouent plus. Donc c'est une équipe qui est capable de perdre contre Dijon aujourd'hui, comme l'année dernière, ils avaient perdu 3-1. Les mêmes mots se répètent à Lyon. Le problème, il est plus profond que ça, et quel que soit l'entraîneur, je pense que ça ne réglera pas le problème. Mais là, Rudy Garcia, le problème, c'est qu'il y avait la tempête, et pour éteindre la tempête, on a pris un cyclone. Donc c'est pas trop
oui,
pratique.
C'est
une belle image. On va recentrer justement David Ayello avec vous, Yaous, pour le débat sur Rudy Garcia. Un pari risqué, parce que Lyon, on se rappelle, le journal L'Équipe notamment, mais d'autres journaux, hein, le Figaro aussi, avait fait un peu la liste des diatribes, des polémiques qui existaient entre le président Aulas et l'entraîneur de Marseille. Et là, on connaît le foot. Hein. Maintenant, on a compris que c'était fini de rêver. Y a un entraîneur qui vociférait contre un président, qui lui rendait. Puis maintenant, ils sont potes, ils sont employés et employeurs. Ouais, David Ayello, il y a aussi
Michel Aulas a une explication qui, de ce point de vue-là, je trouve, tient la route. Effectivement, Rudy Garcia était dans son rôle. À l'époque, il était entraîneur de l'OM. Il défendait sa paroisse.
Oui, sans... enfin, il y a défendre et défendre.
Bah, oui, mais enfin, et voilà, il y a eu des polémiques d'arbitrage. Ouais. Alors après, moi, c'est plus là-dessus qu'on peut effectivement s'inquiéter. C'était effectivement sur ce côté un petit peu pleurnichard qu'on lui reprochait à Rudy Garcia.
Je vous interromps deux secondes, parce que moi, c'est vrai que ça me vient à l'idée. Quand on voit Genesio qui se fait défoncer par tous les supporters, quand on voit Silvinho et Juninho adulés, et finalement Silvinho renvoyé, et maintenant Rudy Garcia sifflé, c'est les supporters qui font la pluie et le beau temps. Ça sera peut-être une autre partie du débat.
C'est une partie effectivement intéressante, mais sur la partie de Rudy Garcia, on peut observer que déjà dans sa com', pour l'instant, il a été quand même beaucoup plus prudent sur sa première conférence de presse.
Ah bah, il n'allait pas dire on craint des gains.
Donc,
il a appris de ses erreurs un peu.
On a ce sentiment pour l'instant. Après, évidemment, ça demande d'être confirmé sur la durée, mais et même apparemment sur la réunion qu'il a pu avoir avec les supporters, ça aussi il y a quand même un côté un petit peu lunaire. Il arrive avant même d'avoir pratiquement dirigé un entraînement, en tout cas avant même d'avoir joué son premier match officiel, il se retrouve à devoir se justifier auprès d'entraîneurs. Je trouve que en tout cas tout ça pour dire que le climat qui entoure son arrivée est évidemment extrêmement difficile et compliqué, et du coup ça revient un petit peu sur ce qu'on disait sur le rôle des supporters. Je pense que Jean-Michel Aulas à un moment va devoir à nouveau sortir du gué, parce qu'il a pris du recul. Ouais. Mais là, vu ce qui se passe avec ce qu'on a vu ce soir avec les supporters, il avait demandé aux supporters d'être assez clément avec Rudy Garcia. C'est pas du tout ce qu'on a vu ce soir.
Florian Gazan, est-ce que c'est pas lunaire quand même de voir Rudy Garcia avec tout ce qu'il a dit avec l'OM? Moi, je reviens à ça parce que moi, je suis peut-être mais est-ce qu'on n'est pas dans l'utopie de se dire c'est pas possible, tu viens entraîner Lyon après tout ce que tu as dit contre Lyon?
Oui, moi ça me dérange un petit peu, et encore une fois je trouve ça surtout lunaire du point de vue où on nous dit Lyon, Mourinho, et puis après Laurent Blanc, on finit Rudy Garcia. Si c'était pas Garcia, avec qui derrière? C'était Libo. Enfin, c'est très déceptif aussi pour les supporters.
C'est du quand... rien, Rudy Garcia, quand même.
Non, mais oui, enfin, si, il a accepté le boulot et il a tout fait pour l'avoir. Apparemment, il aurait pu dormir sur un camping-car sur le parking du Groupama Stadium pour avoir le job. Il est venu avec un seul adjoint, il a rien demandé, il voulait le taf.
Il a tout accepté.
Il a fait des concessions. Il sait où il met les pieds. Ouais, il a besoin de bosser, il bosse, mais c'est vrai que je trouve que ça perd un peu de la magie du foot, ce côté-là, quoi.
Cindy Colmenares.
Il répond tout de même, pour contrebalancer un peu ses arguments, il répond à un besoin qu'il y avait aussi au niveau du vestiaire, c'est que clairement, Silvinho n'avait pas l'autorité qu'on peut parfois admettre que Rudy Garcia a et qu'on peut aussi critiquer. Parce que c'est Rudy Garcia qui s'est mis aussi à dos David Luiz à l'OM, en les mettant un peu à l'écart parce qu'il n'était pas à l'aise dans ses postes. Luis Gustavo, parce qu'il n'était pas à l'aise à son poste, merci. Et du coup, clairement, c'est quelqu'un qui va avoir une autorité, mais je me demande si ces manques d'autorité qui a été comblé finalement par ces personnages, est-ce qu'il va pouvoir vraiment tenir les vestiaires? Est-ce qu'il ne va pas encore avoir ces difficultés qu'il a eues par ailleurs? Et c'est vrai que quand il a amené son équipe en Europa League, qu'il a réussi à les classer finalistes, on voit qu'il arrive à apporter quelque chose quand même de différent, d'influer quelque chose au sein du vestiaire. Donc ça peut être positif.
Baptiste Despré,
sur l'autorité, j'attends de voir, parce qu'il a quand même lâché du lest avec certains cadres à Marseille, et c'était pas quand même l'entraîneur.
L'affaire Rami, par exemple.
L'affaire Rami qui est parti à Fort Boyard, etc., alors que sans l'aval de son coach avec, bref, ça dépend des parties. Au niveau autorité, je trouve que c'est un peu facile quand on arrive, quand il y a un nouvel entraîneur. Alors lui, il va être autoritaire, lui, il gère bien la vidéo, lui, etc., etc., etc. Non, il va être jugé rapidement sur les résultats. Et puis il a pas de temps d'attente, encore une fois. Et là, ça va être compliqué. Maintenant, il a appris aussi de ses erreurs, parce que la rencontre avec les supporters, alors est-ce que c'est lui qui a demandé? Est-ce que que c'est Aulas qui a dit il faut absolument que tu ailles voir les supporters. Rappelez-vous quand même, à Marseille, il l'a fait à toute fin de son mandat. Il voulait pas du tout aller voir les supporters. Il pensait, en fait, Rudy Garcia, il a quand même une haute estime de lui. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est malin. Preuve en est, il a rebondi alors que il y a 6 mois, on vous aurait dit il est entraîneur de Lyon, personne n'aurait cru. Surtout en balance avec
Laurent
Blanc.
Même les supporters. Bien sûr.
Et c'est quelqu'un qui sait parfaitement rebondir. Et là, sur le côté supporter, ça montre, je trouve, le côté malin. Alors, bien entendu, ça n'a pas marché tout de suite, un claquement de doigts avec des, on voit avec les banderoles ce soir. Mais en revanche, sur la durée, ça peut marcher. Mais il faut que ce soit accompagné par.
Par contre, il faut qu'il fasse vite,
hein,
parce que là, je pense que s'il se plante à l'OL juste après son échec à l'OM, il va descendre vraiment de plusieurs cases dans la.
On va retourner, Cindy, à Lyon. Willy Messonas, Lyon-Dijon, toujours 0-0. Les Lyonnais qui essayent, mais qui se heurtent à cette équipe dijonnaise qui ne refuse pas le jeu en plus.
Oui, qui essaie, mais sans mettre beaucoup de rythme. Là, justement, enfin, peut-être une accélération côté lyonnais avec Maxwell Cornet accroché dans la surface de réparation. Est-ce que ce sera un corner? Non, finalement, un renvoi au 5m50, mais ça ronronne beaucoup trop dans le jeu de l'Olympique lyonnais pour l'instant pour créer des déséquilibres dans la défense de Dijon qui gère. Hein. Les Dijonnais font un match très, très sérieux, très cohérent pour l'instant. Ils se sont créés d'ailleurs quelques situations intéressantes en première période, mais toujours 0-0.
Willy, comme vous connaissez bien le bassin Rhône-Alpes, oui, Saint-Étienne et Lyon. Votre analyse, vous, de Rudy Garcia à Lyon, le pari risqué, votre question, vous pouvez aussi avoir votre avis.
Il faut rappeler que c'est un choix par défaut. Ils l'étaient tous, de toute façon, dans la liste établie par l'Olympique lyonnais. Blanc, Gourvennec et Rudy Garcia. Donc, c'était que des choix par défaut de l'Olympique lyonnais qui rêvait plus de Patrick Vieira ou Christophe Galtier, mais ces deux entraîneurs-là étaient sous contrat. Ensuite, il y avait une urgence à régler, une urgence à gérer, et l'état-major lyonnais a considéré que Rudy Garcia était l'homme le plus capable de remettre rapidement l'OL sur les bons rails, parce qu'il y a vraiment une urgence de points aujourd'hui à l'Olympique lyonnais. Lorsqu'on regarde le classement, ils sont à 9 points d'Angers, à 10 de Nantes qui est deuxième. Je ne vous parle même pas du Paris Saint-Germain qui est à 14 à l'heure où on se parle avec ce point du nul pour l'Olympique lyonnais, cette nouvelle contre-performance qui se dessine.
Ouais.
Donc voilà, fallait réagir. Après, c'est clair que c'est risqué. D'autant que vous parliez de l'ego de Rudy Garcia. Il a un très gros ego. Jean-Michel Aulas également a un très gros ego. Donc s'il n'y a pas de résultat, à un moment, ça pourrait assez vite clasher.
Oui, ça va partir au clash, c'est possible aussi.
Oui, d'autant que pour l'instant, il fait des concessions, mais vous connaissez Rudy Garcia. Ouais. Rudy Garcia, il fait des concessions au départ. Il n'en fait plus au bout de 6 mois lorsqu'il y a des résultats qui parlent pour lui. Donc très vite, il va revenir avec certaines exigences et présenter certaines volontés au président Aulas.
Voilà, on a profité de cet arrêt de jeu effectivement pour écouter Willy Messonas, notre correspondant RTL à Lyon, pour Lyon-Dijon 0-0. D'autant Baptiste Després qui a un match qui se profile aussi. Ligue des Champions, Benfica OL, où là plutôt Lyon est pas mal placé finalement.
Bah, c'est ce que disait Florian ou Cindy, je sais plus, mais au niveau de la Ligue des Champions, entre guillemets, il n'y a pas trop de déception. Et encore que, regardez, contre le Zénith, ils ont fait un très mauvais match en début de parcours.
Oui, mais comptablement, tu rattrapes en gagnant à l'Elysée.
Jean-Michel Aulas n'arrête pas de le dire. Ils sont encore en course en Ligue des Champions, donc ça, c'est sûr. On verra bien. Mais non, sur cet aspect-là, on parlait de l'ego de Rudy Garcia. C'est un malin, mais encore une fois, s'il n'a pas de résultat, s'il se plante au bout d'un mois, il va pouvoir demander un autre adjoint ou d'autres joueurs au mercato. Ça ne va pas changer grand-chose.
On revient dans quelques instants avec Cindy Colmenares, David Aiello de Yahoo Sport, Florian Gazan et Baptiste Près du Figaro, nous parlerons d'André El Di Maria, du Didier Deschamps également, avec ces polémiques qui existent entre l'équipe de France, le sélectionneur et les clubs. On se retrouve dans quelques instants sur RTL, à tout de suite.
RTL, on refait le match.
Dainissan.fr.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Gazan est avec nous, Florian Gazan, David Aiello d'Yahoo Sports, Nicole Ménarès et Baptiste Després du Figaro. Toujours 0-0 entre Lyon et Dijon. Willy Messonas est sur place. C'est dur pour Rudy Garcia pour son premier match à la tête des Lyonnais. Cindy Colmenares, alors Rudy Garcia, c'est vrai, un pari risqué. Le score le prouve encore. Mais en Ligue des Champions, son expérience qu'il a vécue en Europa League avec Marseille, avec la Roma aussi, Lille, Le Mans, Dijon. Bon, là, on sort de la Coupe d'Europe, mais ouais, ça fait beaucoup d'expérience quand même. Ça peut quand même jouer aussi en sa faveur.
Je pense que oui. Enfin, d'ailleurs, on a cette habitude de penser que Rudy Garcia est plutôt la personne qui arrive quand ça ne va pas. Il est arrivé à Marseille quand ça n'allait clairement pas. Il a réussi à les faire remonter de la 10e à la 5e place. Donc, c'est comme ça qu'il se qualifie par la suite en Europa League. Donc, on s'imagine que c'est quelqu'un dont les caractères et la force, parce qu'en fait, l'OL, au niveau des joueurs, ils sont clairement ce qu'il faut. Enfin, moi, je pense
oui, c'est
pas
ce que j'allais dire. L'effectif, c'est quand même pas pourri.
Il est bon. Ouais. Non, non, il est bon. Donc, en fait, il manquait vraiment quelqu'un avec du caractère qui arrive à faire passer des messages, ce que Silvinho n'a malheureusement pas réussi à faire. Donc, je ne l'enterre pas forcément, mais c'est vrai que c'est quand même étonnant parce qu'il a tendance à plutôt mal finir qu'à mal commencer. Et là, on ne voit pas grand-chose actuellement. Après, Dijon en face joue bien.
Ouais, David Ayello, Yahoo Sport.
Il ne va évidemment pas m'apporter sa patte au bout de 3 journées d'entraînement et au bout de 45 minutes. Donc on va quand même essayer de le juger sur la durée. Moi, ce qui m'intéresse également, c'est le relationnel un petit peu, parce que du côté de Marseille, il a eu un management qui était assez particulier. Je trouve c'est qu'au début, il était quand même beaucoup dans l'affectif. On l'a vu avec ses joueurs, etc.
Et il a notamment eu des conflits avec des tauliers aussi.
J'allais le dire, mais ça, c'est venu dans un second temps. Donc c'était peut-être un petit peu la preuve que son management s'est soufflé. Mais il faut reconnaître quand même qu'au début, il avait réussi à embarquer, y compris les cadres. Et puis après, voilà, il a fait des choix forts. À un moment, il a écarté Payet, il a écarté Rami. Enfin, là, il a écarté quelques tauliers du vestiaire. Et finalement, ça s'est retourné contre lui. Donc je sais pas comment il va gérer là à Lyon avec un environnement qui est différent. C'est que même si c'est moins prégnant qu'avant, il y a toujours quand même ce côté lyonnais qui est beaucoup plus fort qu'à Marseille. Il n'y a quasiment pas de joueurs issus du centre de formation de l'OM à Marseille. À Lyon, évidemment, c'est beaucoup plus prégnant, beaucoup plus fort. Donc je ne sais pas comment il va gérer cet environnement lyonnais qu'effectivement il va découvrir et avec lequel il va devoir composer, sans parler de Bernard Lacombe, de Gérard Houllier.
Qui a pris du retrait par rapport à avant, Bernard Lacombe.
Oui, mais il y a quand même un environnement très fort. Il y a Florian Maurice, enfin, c'est un club qui est beaucoup plus
tenu un peu par les anciens, c'est vrai.
À Marseille, il était en roue libre avec Jacques-Henri Hérault, qui ne connaissait pas son métier, et Zubizarreta, qui était venu en touriste. Enfin, il y est encore, je ne sais plus. Là, il va se retrouver quand même déjà, on lui a collé un staff. Voilà, avec Assapa, Batik, le Grégory Coupé, on l'a collé un staff qui était là, un staff lyonnais, et ça aussi, c'est un truc aberrant dans ce club. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends un entraîneur, tu dis, ok, mais alors on garde le staff. Dans quel club au monde
oui, mais
un
entraîneur ailleurs, oui, ça, oui, mais Florian, il y a un autre exemple, c'est qu'on dit partout, et on le voit en Europe, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont dans les staffs de grands clubs.
Dans les staffs, ils sont un petit peu plus haut, pas
ouais, mais ils sont quand même là.
Dembélé dans la surface de réparation, la frappe de Dembélé au l'arrêt du pied de Gomis. Superbe parade de Gomis. Dembélé qui était quasiment au niveau de la ligne des 5m50, qui a récupéré ce ballon, qu'il a parfaitement contrôlé. Mais derrière, la parade, l'arrêt superbe de Gomis. Toujours 0-0, on vient de passer l'heure de jeu.
Merci Willy Messonnas, 0-0 effectivement, toujours après cette grosse occasion pour l'Olympique Lyonnais. Florian Gazan.
Oui, non, je veux dire, quand on prend un entraîneur, on parlait de Mourinho. Vous croyez vraiment que Mourinho, il serait arrivé à Lyon en disant, ok, bon, moi je viens tout seul, mais je vais bosser avec Batik, le Cassapa est coupé. Non, ça n'existe pas. Donc de toute façon, déjà, l'attelage, il est quand même très bizarre. Garcia, ça va être compliqué parce qu'il va se retrouver quand même assez isolé face à un contexte lyonnais qui est très fort. Et je pense que ça va être difficile. Lui qui aime bien jouer au gain de terrain et gagner un petit peu, prendre de la marge, là, ça va être quand même compliqué.
Ou alors, il réussit à se mettre les joueurs dans la poche, ce qu'il a fait aussi par les passés, parce qu'on parle qu'il y a de l'OM, mais il y a aussi les joueurs du LOSC. Il y a des joueurs qui disent qu'ils sont prêts à donner la vie sur les terrains, parce que vraiment, il venait les rassurer. Il était assez professionnel, assez rassurant, mais il leur donnait aussi de la sécurité. Donc, il a apporté vraiment ce qu'il fallait. Donc, peut-être qu'il arrive aussi à se mettre les vestiaires dans la poche, et là, les résultats peuvent être différents.
Baptiste Després, Figaro.
Je reviens un peu sur ce que disait David sur la gestion des stars, ça va être ultra important. Il y a une star à Lyon, c'est Memphis Depay. Et Rudy Garcia joue en 4-3-3. Memphis Depay ne joue pas en 4-3-3, ou alors à très peu de choses près. Donc ça va être intéressant de voir comment il va positionner ce joueur star, parce que c'est quand même un joueur qui est malgré tout différent dans l'effectif lyonnais.
Ça pourrait être différent, il est différent, il marque des buts en sélection, il ne fait rien à Lyon.
Il y a de ça, on va voir d'ailleurs s'il va marquer à Lyon à nouveau.
Il faut qu'il joue orange.
Ouais, oui, c'est ça.
Et il y a aussi quelque chose, David le disait, autant à Marseille, il n'y a pas un gros centre de formation, à part le petit Camara qui est sorti, il y avait peu de choses à faire. Autant là à Lyon, c'est quand même la marque de fabrique. Là, il a mis le petit Cherki, c'est pareil. Exact. Quand il met le petit Cherki aujourd'hui dans le groupe,
c'est
une pépite, on l'annonce à 16 ans, c'est un message aux supporters. Donc ça va être intéressant à voir, gestion des stars et justement la sortie de bande de certains jeunes.
David Ayello, est-ce que la Ligue des Champions peut changer quelque chose à Rudy Garcia? Parce que là, on se dit, bon, s'il ne bat pas Dijon, il y a le joker, entre guillemets, faire un bon résultat au Benfica et prendre encore des points pour que Lyon sorte de cette phase de poule.
Ça peut changer, déjà, peut-être, comme on le disait, dans l'approche des matchs. C'est vrai que globalement, sur les 2-3 dernières années, on a vu un effectif qui arrivait quand même plus à élever son niveau lors de cette compétition qu'en Ligue 1. Donc peut-être qu'il va pouvoir lui s'appuyer là-dessus, trouver aussi les bons mots. Finalement, il l'avait réussi à le faire avec Marseille en Ligue Europa, en arrivant à les transcender pour la compétition, même si, comme je le rappelle souvent, mon cher Denis, je sais que ça ne vous plaît pas, il n'avait quand même pas des adversaires
mais c'est pas que ça ne me plaît pas, c'est qu'aujourd'hui, quand Lyon gagne à Leipzig, on dit Leipzig, c'est formidable, et quand Marseille avait battu Leipzig, on avait dit, mais c'est une équipe de merde.
C'était pas le même Leipzig quand même.
Oui, enfin, il y avait quand même
joueurs majeurs étaient là.
C'était la seule
Florian Gazan. Oui, mais c'est aussi la façon dont il a gagné aussi, parce que c'était un solo, il arrive à faire retourner complètement les matchs et s'imposer avec 5 buts. C'est ça aussi, c'est que peut-être l'équipe de Leipzig n'était pas énormissime, mais la façon dont ils ont réussi à gagner était quand même admirable.
Après, on parle de ce match contre Benfica, c'est hyper important avec des champions pour l'OL. Enfin, on se doute bien qu'ils vont pas la gagner. Enfin, je prétends l'affirmer, mais je pense que le match le plus important pour Garcia, ça va être le 10 novembre. C'est le match au Vélodrome. Parce que celui-là, en revanche, s'il réussit à gagner avec l'OL à l'OM. Là, je pense que ça peut retourner quelque chose auprès des supporters.
Il s'est fait la siffler, en tout cas.
Oui, alors, ah bah ça, oui. Bah, oui
l'accueil, alors, bon, l'émission...
Qui va le supporter, du coup, ce matin?
On évoquera forcément...
Il ne faut pas qu'il se trompe de blazer.
On évoquera forcément le 9 novembre, ce rendez-vous important qui sera le lendemain, ce Marseille-Lyon. Mais il est évident qu'à Marseille comme à Lyon... Alors finalement, c'est là où le pari est risqué. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui part de Marseille déjà par la petite porte. Mais il va revenir par le Velux. Et là, en plus, il a le maillot de Lyon sur les épaules. Il n'est pas aimé dans son club. Donc, pourquoi, en fait, Rudy Garcia a accepté ce job? Pourquoi il est allé, comme vous l'avez dit, Florian, il est allé au-devant de ce club?
Je ne sais pas. Je pense qu'il avait envie de travailler. Il manque peut-être un peu d'argent. Enfin, je ne pense pas, mais je ne comprends pas la logique. Après, c'est sûr que...
La logique est claire.
Non, oui, mais évidemment. David, il sait très bien qu'il va se mettre quand même dans un traquenard. Il va se mettre dans un club avec des joueurs qui sont hors de confiance, dans un cadre lyonnais ou un entraîneur étranger, même français... est étranger s'il n'est pas lyonnais, avec une rivalité avec l'OM. Il se met quand même dans une situation extrêmement compliquée. Après, s'il réussit, ouais, mais bravo. Mais quand on
la double parade à nouveau de Gomis. Ça chauffe. Il y a beaucoup plus d'accélération sur cette pelouse côté stéphanois. Une première situation parfaite pour un attaquant, pour Maxwell Cornet. Et puis derrière, Tété qui n'appuie pas sa tête, ou Jeffrey Adelaide peut-être, plutôt Jeffrey Adelaide qui n'appuie pas assez sa tête alors qu'il est seul devant la cage dans les 5m50 Dijonais. Gomis qui réussit à repousser le ballon, toujours 0-0 après 66 minutes de jeu.
Merci Willy Messonas, on se retrouve évidemment dans quelques instants. La question du pari risqué pour Rudy Garcia, c'est aussi pour l'avenir, parce qu'une chute à Lyon après une sortie à Marseille un petit peu difficile, ça gangrène un petit peu le CV.
Ouais, je pense que
David Ayeloye au sport.
Je suis pas sûr qu'il avait vraiment le choix. La fin de son expérience marseillaise, son image qui était extrêmement dégradée avec sa communication qui avait fini par lasser tout le monde, y compris les supporters marseillais, sur ses complaintes permanentes sur tous les sujets possibles et inimaginables, ça a dégradé son image. Donc là déjà, Rudy Garcia récupérait un club du standing de l'OL. Pour lui, c'est un miracle.
Regardez
Laurent Blanc, qui a quand même un autre palmarès que Rudy Garcia au niveau européen et même au niveau national, il a quand même mis ça fait 3 ans, qu'il est même pratiquement 4 ans qu'il a rien. Donc Rudy Garcia était dans une situation déjà où c'est un miracle pour lui de récupérer l'OL, et je pense que voilà, il joue un petit peu son va-tout, mais effectivement derrière ça sera encore plus compliqué s'il se loupe. Mais qu'est-ce qu'il pouvait espérer de mieux?
Je suis complètement d'accord avec ça, et surtout ça démontre quand même, on va lui tirer quand même certains côtés positifs, une sacrée force de caractère, parce que là il arrive dans un environnement, comme disait Florian, c'est quand même compliqué, il va se faire pourrir les supporters, etc. mais ça montre que ce coach là en a un peu, quoi. Il a envie d'y aller. Alors après, est-ce que ça va durer? On peut pas faire ça que sur quelques matchs, de dire avec le mental et compagnie.
Mais vous voulez dire que aller dans cet environnement hostile, c'est aussi une force?
Complètement. C'est les good challenge, moi je trouve ça excellent qu'il ait été capable d'aller là-dedans. Pour moi, c'est une bonne décision qu'il a prise. Après, les résultats, on verra. Mais en tout cas, il y a une chose aussi à rappeler, c'est que l'OL n'avait pas forcément trop de choix, parce que je pense qu'ils se seraient plus penchés sur Laurent Blanc, mais ils n'ont pas réussi non plus à l'avoir par plein de situations. Donc du coup, oui, c'est un peu un choix par défaut.
Alors, on va faire un tour de table. Après, on ira voir Willy Messonnage jusqu'aux infos. Florian Gazan, pour vous, Rudy Garcia va-t-il réussir à Lyon, oui ou non? Est-ce que ça dépend de ce match de ce soir, ou on va lui laisser un petit peu plus de marge? Florian Gazan.
Moi, je pense que, étant donné que c'est un entraîneur de première saison, il va réussir à faire quelque chose avec l'OL.
David Ayello, Yahoo Sport.
Après, ça dépend ce qu'on entend par faire quelque chose. Là, ils partent de loin.
Faire quelque chose, on avait dit en début de saison, Lyon, c'est le dauphin du Paris Saint-Germain. C'est le challenger.
Non, mais en plus, eux-mêmes l'ont clamé en expliquant qu'ils voulaient se rapprocher, voire même, on l'a entendu, aller titiller le Paris Saint-Germain. Donc, titiller, évidemment, c'est déjà terminé cette hypothèse-là. Et moi, je suis quand même plus pessimiste que Florian. Je le vois en difficulté jusqu'à la fin de saison.
C'est Nicole Ménares.
Non, moi, je pense qu'il va réussir à faire quelque chose. Après, c'est vrai, il est très tôt pour les dire encore. On voit qu'un match. Mais je pense qu'il en est capable, il en a les ressources et il s'engage. Gâche pas comme ça des façons folles, c'est qu'il a misé aussi sur cette expérience.
Baptiste Després, Le Figaro.
C'est quelqu'un qui est intelligent, qui va apprendre de ses erreurs, enfin j'espère quand même, et je pense que oui, il va réussir comme dit Florian, sur un an et demi. Après, ça sera compliqué.
Willy Messonas, Lyon-Dijon 0-0. On reste avec vous pendant une bonne minute 30.
Ouais, exactement, 69 minutes de jeu, mais beaucoup plus de générosité dans le jeu de l'OL. Alors, tout n'est pas parfait. Hein. De la minute à l'autre, il y a toujours pas mal d'approximations. Mais voilà, il y a plus de situations lyonnaises. Dijon recule davantage. Et puis surtout, il y a plus d'efforts, il y a plus de courses, il y a plus d'envie, plus d'enthousiasme dans le jeu lyonnais, notamment offensivement. Un peu trop la générosité de la part de Lucas Touzard avec cette faute sur Samaritano.
Est-ce qu'il y a eu du coaching?
Il y a eu du coaching, je vous en parlais tout à l'heure avec la sortie de Martin Terrier remplacé par Traoré. Il y a eu surtout la sortie de Thiago Mendes sous les sifflets. Il est passé au travers de son match là, Thiago Mendes, transparent au milieu de terrain, remplacé par Jeffrey Adélaïde qui a donc eu cette très très belle situation à 5-6 mètres de la cage dijonnaise, mais qui a pas assez mis de puissance dans sa frappe de la tête. 0-0 donc après 70 minutes de jeu.
Et rapidement, Willy, les Dijonais qui résistent hein, avec un grand gardien.
Ouais, les Dijonais qui résistent, mais qui sont bien moins convaincants, bien moins menaçants en tout cas qu'en première période. En première période, voilà, on les voyait parfois dans les 30, dans les 20 mètres d'Anthony Lopez, avec certaines situations, notamment pour Mavididi, mais depuis la reprise. C'est tout de même un sérieux avantage pour l'Olympique Lyonnais.
Merci beaucoup Willy Messonas, qu'on retrouvera évidemment jusqu'à la fin de cette rencontre. Nous parlerons dans la deuxième partie d'On refait le match d'André Di Maria, l'Argentin du Paris Saint-Germain qui brille de mille feux, futur ballon d'or, pourquoi pas. Et puis en exclusivité sur RTL, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, confiait l'autre jour ses doutes quant au conflit qui existe entre les clubs et la sélection, avec des joueurs blessés, des polémiques qui existaient notamment pour Lucas Hernandez au Bayern Munich, les polémiques avec N'Golo Kanté et Frank Lampard de Chelsea. Nous reviendrons là-dessus évidemment avec Cindy Colmenares, David Ayello de Eurosport, Florian Gazan et Baptiste Després du journal Le Figaro. A tout de suite sur RTL après RTL. Les infos.
On refait le match.
Appel gratuit.
RTL, il est 19h. L'information, Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Si vous avez prévu de prendre le train demain, attention, de nouvelles perturbations sont à prévoir, mais impossible de faire des prévisions ce soir selon la direction de la SNCF. Pas de retour à la normale demain en tout cas. Le trafic est perturbé depuis hier. Contrôleurs et conducteurs ont décidé d'exercer leur droit de retrait après un accident de train qui a fait 11 blessés mercredi dans les Ardennes. Conséquence, une pagaille qualifiée d'inacceptable par Édouard Philippe. Au premier jour des vacances scolaires, le Premier ministre dénonce un détournement du droit de retrait et demande à la direction de l'entreprise ferroviaire d'examiner toutes les suites, y compris judiciaires. 2600 personnes dans la rue à Belfort cet après-midi pour manifester contre le plan social de General Electric. Dans le cortège des salariés, des gilets jaunes, des élus locaux, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui a estimé dans un tweet que l'usine menacée est un fleuron de notre industrie nécessaire pour réaliser la transition énergétique qu'Emmanuel Macron et ses amis ont abandonnée, je cite. Le flou, à nouveau, à 12 jours seulement de la date prévue pour le Brexit. La Commission européenne demande à Londres de lui donner la marche à suivre dès que possible. Cet après-midi, les parlementaires britanniques ont repoussé leur décision alors qu'ils devaient se prononcer sur l'accord négocié par Boris Johnson avec Bruxelles. Le Premier ministre a immédiatement affirmé qu'il ne négocierait pas de nouveau report. Un nouveau report qui serait une mauvaise opération pour ce pays, mauvais pour l'Union européenne et pour la démocratie, je cite. Une nouvelle manifestation indépendantiste dans les rues de Barcelone ce soir après 5 nuits de violence. Les négociations sans condition, demande du gouvernement catalan, finalement été rejetées. Madrid réclame que les autorités indépendantistes condamnent fermement la violence et veulent que Barcelone exprime sa solidarité avec les policiers blessés. Hier soir, 182 personnes ont été blessées en Catalogne. 83 interpellations suite à la condamnation lundi dernier des leaders indépendantistes. En rugby, on connaît l'affiche de la première demi-finale de la Coupe du Monde. Au Japon, l'Angleterre affrontera la Nouvelle-Zélande. Les deux équipes se sont qualifiés facilement. La qualification s'annonce plus compliquée pour les Bleus. Demain matin, ils affronteront les redoutables Gallois. Et puis en top 14, c'est la mi-temps. Brive est en tête face à Bordeaux-Bègles 13-6. Même score pour Toulon qui domine Bayonne, donc 13-6. Pau devance Castres 17-10. Et puis Agen déroule pour l'instant face au Stade Français 17-0, juste avant le début de la seconde période. Cet après-midi, Montpellier a battu le Stade Toulousain 33-22. La météo pour demain, ce sera encore maussade avec des nuages et de la pluie sur la plupart des régions. Des averses marquées notamment sur les Cévennes. On prévoit quand même des belles éclaircies demain matin au nord-ouest du pays. Mais le ciel va devenir plus couvert demain après-midi avec un petit peu de pluie vers la Normandie. Les températures, il fera 13 degrés à Paris et à Nantes, 15 à Limoges, 17 degrés à Toulouse, 18 à Mulhouse, 23 degrés à Lyon et encore 29 degrés demain après-midi à Bastia. Il est 19h03 sur RTL. On refait le match. La suite avec vous, Denis Balbir.
Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan, nous allons parler d'Angel Di Maria, du Paris Saint-Germain, de l'exclusivité RTL avec l'interview de Didier Deschamps à Philippe Sanfourche, le sélectionneur des Bleus, a fustigé un petit peu l'attitude de certains clubs par rapport à la polémique qui existe entre les joueurs blessés et la sélection. Et puis nous allons évidemment aller régulièrement jusqu'à la fin du match Lyon-Dijon. Première Ligue, j'allais dire. Ligue 1, évidemment. 0-0 pour l'instant avec Willy Messonas. Nous revenons dans quelques secondes sur RTL avec Cindy Colmenares, David Ayello de Yahoo Sport, Florian Gazan et Baptiste Després du Figaro. À tout de suite.
RTL. RTL. On a tellement de choses à se dire.
On verra. .fr.
RTL. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Avec Cindy Colmenares, David Ayello de Yahoo Sport, Baptiste Després du Figaro et Florian Gazan, nous allons évoquer Angel Di Maria qui fait vraiment des étincelles avec le Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Ce n'est pas la première fois. Auparavant, un petit tour quand même à Lyon. Lyon-Dijon, c'est toujours 0-0, Willy Messonas.
Ouais, exactement. On vient d'entrer dans le dernier quart d'heure, toujours 0-0. Mais à l'instant, un frisson vient de traverser les tribunes du Groupama Stadium puisque Ndong a débordé sans très fort dans les 5m50 d'Anthony Lopez. Et c'est Tavares qui a été le plus prompt devant la défense centrale de l'OL, mais son ballon est passé au-dessus de la barre transversale alors qu'ici une tête de Moussa Dembélé, la riposte lyonnaise, mais encore un arrêt de Gomis. On en reste à 0-0.
Et nous restons évidemment avec vous vigilants par rapport à l'évolution du score. Angel Di Maria, le joueur du Paris Saint-Germain, l'Argentin, nous a régalé hier à Nice en inscrivant deux buts exceptionnels, un début de saison énorme. L'influence sur le jeu, les buts contre le Real Madrid, David Ayello, Yahoo Sport, c'est le ballon d'or.
Allez. Le ballon d'or français, pourquoi pas, enfin français en tout cas qui joue en Ligue 1, il pourrait prétendre en tout cas de par sa régularité. Après on va être raisonnable et sérieux sur ses chances, elles sont nulles, tout simplement parce que voilà, il y a des joueurs qui ont plus performé que lui au niveau international, qu'on connaît également l'impact, j'ai envie de dire marketing, de certains joueurs comme Cristiano Ronaldo et Messi évidemment sur cette compétition, qui partent avec un avantage absolument énorme, notamment aussi compte tenu du système de vote. Il y a les votes des joueurs désormais qui sont pris en compte, et on sait que les joueurs voient pas beaucoup de matchs, hein, on va pas se mentir.
On vote pour les copains.
Voilà, donc on vote pour les copains.
Ils voient les joueurs sur FIFA, quoi.
Voilà, on vote pour. Ça revient un petit peu à ce que j'ai sur le côté un petit peu marketing des joueurs. On vote pour des noms, pas forcément pour des performances. Et hélas pour lui, Angel Di Maria, même si c'est un joueur extraordinaire, a pas cette carte-là. Après, de toute façon, ses performances internationales font qu'il ne mérite pas. Mais si on regarde en revanche sa régularité avec le club, effectivement, ça mérite qu'on.
Au niveau européen,
il est en Ligue des Champions, je regardais. Il est extrêmement bien classé. Il a une trentaine de matchs avec Paris depuis son arrivée. Il a 12 buts et 8 passes décisives sur 30 matchs. Ça fait
un bon ratio. Ouais. Cindy Colmenares, cet Argentin nous fait rêver.
Alors, en Argentine, en tout cas, on dit qu'il a fait du Messi, en fait, pendant son match d'hier. Simplement parce que c'est vrai qu'on a vu son 12e but lobé avec un angle très serré où il arrive à taper du pied gauche.
Il est formidable, ce but.
Il humilie, pardon, Benitez, pas vraiment, parce que c'était très compliqué, mais un compatriote quand même. Et on s'est dit que ça fait du Messi à juste titre, parce que c'est la même difficulté qu'il rencontre également Messi. Ça veut dire qu'il brille en club. Donc, Angel Di Maria brille au Real Madrid, il brille au PSG. Il n'y a pas de doute, il est à son meilleur niveau. Mais en sélection argentine,
il a quand même fait une Coupe du Monde 2014 exceptionnelle.
Non, mais
Les emmène en finale. S'il n'est pas là, ils vont jamais en finale.
Et c'est pour ça qu'il a été nominé au Ballon d'Or en 2014. Là, je te rejoins. Mais par contre, là, tout récemment, ses dernières performances, notamment en Copa América, lors du match contre la Colombie, qu'est-ce qu'on a dit? Scaloni est sorti en disant, à la 12e période, quand il avait mis Di Maria sur les bancs, il dit simplement, là, on voit vraiment une Argentine digne de ce que c'est cette équipe, la Céleste. Donc, voilà, il n'a pas vraiment la confiance de l'entraîneur, il peine par rapport à ça, et c'est difficile d'avoir un ballon d'or.
Si l'Argentine, c'est Di Maria.
Oui, non, mais nous c'est pas, nous, c'est pas trop l'Argentine, sans faire offense aux Argentins qui nous écoutent et on les adore, qui nous intéressent, mais c'est l'influence sur le Paris Saint-Germain. Baptiste Després du Figaro, on sent quand même que Bah, Di Maria, c'est le patron. Bah,
il porte l'équipe. Ouais. Il porte l'équipe parce que depuis le début de saison, on n'a pas eu la MCN. Donc à chaque fois, un coup c'est Neymar, un coup c'est Cavani, un coup c'est Mbappé, souvent les trois ensemble. Et il faut se souvenir, rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, on oublie vite, mais rappelez-vous le match contre le Real Madrid. Contre le Real Madrid, il est stratosphérique. J'ai eu la chance d'être au stade ce soir-là, c'était fabuleux à voir. Tout ce qu'il réussissait, que ce soit le petit pont, les transversales, etc., etc., il réussissait tout ce qu'il voulait. Et je trouve que c'est important pour un garçon comme Thomas Tuchel de bénéficier de l'apport, de l'aura de joueur-là. Après, je me pose une question, est-ce qu'il est comme ça parce que les autres ne sont pas là? Ou est-ce qu'il va être à ce niveau-là quand les trois autres vont revenir, quand il va avoir un positionnement différent, quand l'équipe va jouer différemment? Là, c'est ma juste interrogation
sur la réponse, tu l'as sur la saison dernière, parce que là, on parle de cette saison, mais la saison dernière, déjà, je vous rappelle que s'il ne marque pas ce but contre Naples, la Ligue des Champions, c'est réglé. L'année dernière, je regardais le joueur qui a eu le plus d'implications en Ligue 1 sur la saison, c'est Mbappé. Il a participé à 26 buts. Di Maria, il est deuxième, il a participé à 20 buts. C'est-à-dire qu'il a une influence énorme. Et lui, il a un gros avantage sur les petits copains, c'est qu'il ne se blesse pas. C'est-à-dire qu'en gros, depuis qu'il est au PSG, il fait en moyenne 45 matchs par saison. Donc il est hyper régulier.
C'est vrai.
Et alors oui, il y a eu le passage avec Emery où il était un petit peu moins bien parce qu'il il a besoin qu'on l'aime. Voilà, il est goulé comme un poteau de corner, mais il a besoin d'amour, il a besoin qu'on lui dise. Et c'est vrai il avait fallu lui coller Draxler dans les pattes, ça avait coûté un petit peu cher pour le réveiller. Mais depuis que Tuchel est là, et Tuchel, il a été malin, hein, il a bien compris. Dès qu'il est arrivé, il parlait des 4 fantastiques, hein, pas des 3 champions.
D'ailleurs, c'est lui qui l'a retenu. Il avait des envies de départ, il se disait je vais pas jouer. Au final, il l'a retenu.
Mais parce qu'il est important, il marque des buts, il fait des passes.
Je regardais aussi, Florian, depuis son arrivée, c'est vrai que toujours, quasiment à part sous Emery, les débuts de saison sont assez réguliers, c'est-à-dire très hauts.
Mais c'est un joueur hyper, hyper régulier. À partir du moment où il est en confiance, à partir du moment où on lui montre qu'il est important, il peut donner toute la pleine mesure de son talent. Et en plus, contrairement aux autres, il n'est pas trop emmerdant, je veux dire, au niveau de l'ego, etc.
C'est vrai qu'il est calme.
On a beaucoup parlé chiffres. Moi, j'ai envie de parler aussi un petit peu jeu, ballon. Je trouve que c'est un joueur absolument incroyable à regarder. Il est absolument, il est vraiment très très élégant balle au pied. Il est incroyable sur les coups de pied arrêtés, que ce soit pour les corners ou pour les coups francs, parce qu'il en a marqué quelques-uns aussi. Il a un toucher qui est soyeux. Enfin, c'est un plaisir à voir jouer. Et je trouve que c'est vraiment un joueur qui respire
mais
le football.
Mais il faut quand même.
Je vous interromps à Lyon, car il y a la sortie de Maxwell Cornet, mais surtout l'entrée de Ryan Cherki, exactement, pour ses 8 dernières minutes, 16 ans et 2 mois, présenté comme la nouvelle pépite lyonnaise du centre de formation. Très applaudi.
Ah oui, voilà, ça, vous l'entendez, les joueurs.
Très
de...
applaudi.
C'est
normal. Il l'attendait depuis très longtemps sur un terrain de foot en pro, évidemment, puisque c'est un joueur qui est surclassé, qui évolue régulièrement avec la Nationale 2, qui a d'ailleurs marqué plusieurs buts, plus jeune buteur de la Youth League également. Ouais. C'était la saison dernière à City. Bref, beaucoup d'espoir sur ce talent. Un vrai talent, mais qui reste évidemment à polir. En tout cas, pour ces 8 minutes, on va le voir à l'œuvre.
David Ayello, Yahoo Sport.
Juste là, sur l'entrée de Cherki, c'est quand même assez révélateur que le club de Lyon, aujourd'hui, enfin en tout cas son public, en soit réduit, j'ai envie de dire, à espérer qu'un jeune de 16 ans sauve le club du marasme.
S'il marque le but de la victoire ce soir,
c'est significatif.
Ça me rappelle l'entrée de Maxime Partouche au Paris Saint-Germain.
on va revenir à Di Maria.
Que devient-il ?
L'impression que j'ai aussi, c'est que Di Maria, en fait, il s'est tellement fondu dans ce club, et comme vous l'avez dit à juste titre, avec beaucoup de calme, moins d'ego, etc., qu'on s'est habitué finalement. Il faut qu'il marque un but comme il l'a fait hier pour qu'on se dise, ah bah oui, c'est un génie.
Mais c'est qu'il respire.
Ou Cindy, vas-y.
Il respire la Ligue des Champions. Enfin, c'est vraiment un joueur qui est toujours plaisant. Et en plus, on a vu que les nombres de passes, parce que si on voit les nombres de buts qu'il y a du PSG récemment, on voit souvent que les partenaires maintenant, les autres joueurs, sont impliqués aussi dans les buts. Donc il a aussi réussi à faire venir cette confiance, cette fluidité au niveau
collectif,
du jeu.
Il a aidé le collectif.
Les collectifs. Et puis c'est quelqu'un où on sait, on peut toujours faire confiance aux ces joueurs. Il y a maintenant un peu, on commence à entendre dire, est-ce que ça serait pas plutôt Mbappé, Icardi, Di Maria, les nouveaux trios qui brilleraient, qui feraient mal, qui feraient peur. Évidemment, on n'en est pas là à comparer. Il y a Neymar, il y a des joueurs qui sont excellents. Mais c'est quand même un joueur qui apporte énormément au collectif et qui est toujours plaisant.
On va faire un petit tour de table aussi rapide. Le Paris Saint-Germain va à Bruges en Ligue des Champions. Formalité, Florian Gazan.
Formalité, faut pas exagérer, mais je pense que ça devrait aller quand même normalement.
David Ayello, Yahoo Sport.
Oui, surtout qu'on a vu quand même les Parisiens, notamment lors du déplacement en Turquie, on a bien compris qu'ils étaient capables de se transcender. Et déjà qu'en Ligue 1, on voit qu'ils commencent à être assez appliqués et dur à prendre. Je pense qu'en Ligue des Champions, ça devrait passer sans problème.
Cindy Colomenares.
Moi, je pense que dans les conditions dans lesquelles ils évoluent actuellement, ils peuvent très bien attendre une victoire. Pas formalité, mais en tout cas, ça, c'est un match. Mais je pense qu'il y aura une victoire.
Le Baptiste Després du
avec
Figaro.
Avec Di Maria comme ça, avec Icardi qui revient, avec Mbappé qui revient, ça sera une formalité.
Formalité pour Baptiste Després du Figaro. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite d'Orfel Match. Nous parlerons du sélectionneur Didier Deschamps qui s'émeut un petit peu des clubs. Il a des remontrances des clubs. Lui aussi, il en fait par rapport à des joueurs blessés qui arrivent en sélection. Nous verrons ça dans quelques instants sur RTL avec Cindy Colmenares, David Aiello de Yahoo Sport, Florian Gazan et Baptiste Després du Figaro. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Vous souhaitez le transmettre.
RTL, on refait le match. Avec Denis Balbire.
Lyon-Dijon, toujours 0-0. Willy Messonas, ça devient un petit peu inquiétant au niveau comptable en tous les cas.
Ah clairement, ça devient inquiétant. Lyon qui se dirige vers un huitième match de championnat d'affilée sans victoire. Nos confrères du Progrès nous rappelaient ce matin qu'on n'avait plus vu ça à Lyon depuis la saison 1960-1961.
Oula.
Plus de 55 ans.
Ah, j'étais jeune encore.
Oui, très très jeune. Certains n'étaient pas nés, vous le savez, Denis.
Par contre, le chronomètre, Willy, ça c'était pas la peine. Oui, non, mais ça, je sais qu'il tourne. On en est à combien là?
3 minutes. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire, mais il y aura beaucoup d'arrêts de jeu parce qu'il y a eu des changements. Il y a eu une blessure, une inquiétude pour Samaritano également, pour des crampes du côté de Oussem Aouar aussi. Donc voilà, il devrait y
avoir. Je reviens à ça rapidement. Willy, le chronomètre, il tourne pour l'âge, pour tout le monde.
Oui.
Ne vous inquiétez pas.
C'est vrai.
Nous allons passer à Didier Deschamps. Évidemment, vive la fin du match Lyon-Dijon avec Willy Messonas qui est avec nous. Didier Deschamps, donc au micro d'RTL, Philippe Sanfourche nous disait qu'il en avait un petit peu marre, que les clubs se plaignent, téléphonent, écrivent, envoient des mails. Voilà, notre joueur, il faut le protéger, il ne faut pas le faire jouer, etc. Donc Didier Deschamps a été relativement calme avec le Paris Saint-Germain parce qu'il y avait une petite embrouille, début d'embrouille avec Mbappé, ça s'est vite réglé. Par contre, avec Lucas Hernandez du Bayern, et puis Lampard de Chelsea, ça a un peu chauffé. Cindy Colmenares.
Tout à fait normal. Je pense que les Bayern de Munich aussi, il faut au bout d'un moment qu'ils se calment parce qu'on a déjà un précédent avec eux lors de cette exigence qu'ils ont mis. Bon, ils n'ont pas les droits de les faire parce que la FIFA les sanctionnait. Mais cette exigence qu'ils ont mis d'émettre dans les matchs, jouer, de ne pas sortir Neuer et d'émettre plutôt Stegen, j'ai envie de dire de quoi ces clubs se mêlent. Enfin, les joueurs n'ont pas à subir ce genre de pression parce qu'il faut savoir que malgré tout, du coup, les joueurs ils se retrouvent un peu entre deux chaises. Est-ce que je privilégie la sélection? Est-ce que c'est mon club? Enfin, c'est très compliqué.
Alors, on va enlever le cas Giroud qui n'est pas blessé puisque lui c'est un autre cas. Il n'est pas utilisé par Chelsea mais il marque des buts en équipe de France.
Baptiste Després. Il n'a rien dit à Lampard d'ailleurs.
Ouais. Baptiste Després du Figaro. Il a plutôt parlé de N'Golo Kanté. On y reviendra après. Baptiste Després du Figaro.
Mais moi je trouve qu'il est dans son rôle au final, Didier Deschamps. Et il est intelligent parce qu'il le dit déjà à la fin du rassemblement, il y avait 15 jours qui se passent, en conférence de presse, il le disait gentiment mais pas à ce point-là comme chez vous sur RTL. Et derrière, il y a une façon de dire, vous n'allez pas me la faire 50 fois. C'est-à-dire que vous avez plusieurs matchs, on va enchaîner avec le Bayern Munich et compagnie, mais moi je sais comment faire, j'ai 50 ans, je connais le football, je sais si mon joueur peut jouer ou peut ne pas jouer. Donc c'était une façon aussi d'un rappel à l'ordre, mais après c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que les clubs sont au-dessus de tout aujourd'hui. Quand vous voyez les dates internationales, il y en a de moins en moins. Quand vous voyez l'aspect financier, les clubs sont au-dessus de tout. Donc au niveau des sélections, je trouve que c'est un peu difficile de se battre contre ça.
David Ayer, Ole Gunnar.
Au-dessus de tout d'un point de vue réglementaire, financier, etc. Mmh. Après, dans l'esprit des joueurs, c'est plus compliqué. On n'est pas en NBA où pour eux, c'est la compétition avec le club est plus importante que la sélection nationale. On voit bien que pour les joueurs, venir jouer en sélection, c'est important. Surtout pour ceux qui ne sont pas des cadres, il y a quand même il y a peu de joueurs qui sont assurés de leur place en équipe de France. Donc il y a quand même une petite nuance par rapport à ça. Et après, pour revenir à Didier Deschamps, tu l'as un peu dit, Baptiste, chacun est dans son rôle. Et lui-même, quand il était entraîneur de l'OM ou de Monaco ou de la Juve, il avait ces discussions-là, il essayait de protéger ses joueurs. Donc lui-même, en plus, l'a dit à Clairefontaine quand il a parlé sur le sujet, en expliquant qu'ils avaient des intérêts qui étaient divergents. Donc chacun défend sa paroisse. Hein.
Florian Gazan.
Non, mais ce problème, c'est que c'est assez inextricable comme sujet, parce que finalement, tout le monde a raison là-dedans. Deschamps a raison, il a le droit de prendre les joueurs qu'il veut, il est professionnel, il va pas prendre un joueur blessé, enfin, il l'a fait avec Mendy à la Coupe du Monde, mais il va pas blesser un joueur.
joueur, c'est pas son intérêt que Hernandez se pète, parce que si Hernandez se pète, il se pète pour le Bayern, mais il se pète aussi pour les Bleus au mois de novembre, donc c'est pas son intérêt. Après, voilà, les clubs payent les joueurs, mais les joueurs aiment bien aller en...
Mais le cas N'Golo Kanté est un peu différent, parce que moi, ce que j'ai pas très bien compris, c'est qu'N'Golo Kanté est venu en équipe de France, il s'est échauffé contre l'Islande, il ressent un problème à la cuisse, mais Lampard, l'entraîneur de Chelsea, stigmatise un petit peu Deschamps par rapport à l'attitude que l'équipe de France aurait eue avec N'Golo Kanté. Mais moi, pour avoir été comme Baptiste, comme vous peut-être aussi, au Stade de France avant le match contre la Turquie, la veille, N'Golo Kanté fait des tours de terrain, il essaye, mais je vois pas trop où est la polémique en fait là-dedans.
Non, moi non plus, mais bon, après, c'est toujours facile. C'est aussi une façon de marquer le coup, de dire la prochaine fois, on recommence pas. Donc la prochaine fois, il y aura un principe de précaution. Mais encore une fois, c'est le problème, c'est que les clubs sont aussi contents que les joueurs viennent en sélection nationale, parce que ça les valorise un petit peu. Au moment de les vendre, c'est bien sympa d'avoir une sélection internationale ou quelques-unes à montrer sur le CV du joueur. Donc finalement, c'est quand même un problème de dupe, quoi.
Moi, je pense qu'un club n'a pas à faire subir des pressions de ce type-là. C'est pas juste des remarques, c'est des lettres envoyées.
Alors, il y a un petit bémol quand même, parce que Didier Deschamps a quand même souligné le fait que le club, c'était l'employeur. Donc, il a été malin parce qu'il a aussi mis un paratonnerre par rapport à ça.
Oui, non, mais il est très fort, de toute façon, Deschamps en communication, et il sait aussi maître du caractère et diplomate, donc ça, c'est clair. Mais nous, en tant que journalistes, on peut quand même les percevoir. On n'a pas, moi en tout cas, personnellement, je trouve qu'un club n'a pas à imposer comme ça ou à tenter de les faire, parce que de toute façon, il ne pourra pas les faire. C'est juste une façon de les dire, mais à la fin, les Bayern Munich, par exemple, je reviens au cas d'Hernandez ou des Chelsea, ils peuvent pas concrètement selon les règlements de la FIFA. Donc ça, c'est joli de parler, mais dans les concrets.
Baptiste Després.
On a entendu Franck Lampard sur N'Golo Kanté, mais sur Olivier Giroud, je pense qu'il était content de le voir faire quelques minutes de jeu, parce qu'il ne le fait pas jouer.
Oui.
Giroud a été utilisé.
Heureusement qu'il ne s'est pas blessé.
Avec intelligence par Didier Deschamps. Non, mais Didier Deschamps, ce n'est pas une tête brûlée non plus. Il n'a pas fait deux fois 90 minutes un Giroud qui joue pas à Chelsea.
David Ayello,
Yahoo Sport. D'être juste qu'a pointé Franck Lampard, c'est le fait qu'ils n'aient pas récupéré Kanté pour le deuxième match, alors qu'on savait que de toute façon c'était fini. C'est ça qui les a. Voilà, ils ont aimé le récupérer pour la.
Oui, après l'Islande, il est blessé, il doit rentrer.
Exactement.
Après, il y a un petit bémol que je veux introduire, c'est sur il y a sélection et sélection, il y a les matchs officiels, là c'était des matchs en jeu pour l'équipe de France, ouais. Deschamps avait besoin de ses troupes. Après, sur les matchs amicaux, là je serais un petit peu plus réservé. On a vu avec Neymar qui va jouer à Singapour un match en bois, mais qui doit être là, parce que s'il est pas là, le match est pas vendu au pays.
Exact.
Donc il y a tout ce côté un peu financier qui rentre en ligne de compte,
un peu marketing.
Et là je serais un petit peu moins sympa avec les fédérations qui ont tendance parfois à abuser.
D'ailleurs, plus avec les fédérations, tu l'as dit, qu'avec les sélectionneurs, parce que
les sélectionneurs.
Finalement, ils n'ont pas leur mot à dire là-dessus.
Oui, mais
quand tu vas jouer à Singapour, voilà, c'est le choix de la fédé.
Oui, mais là-dessus, on le sait, voilà, les joueurs, ils jouent trop de matchs. Il y a un moment aussi, il faut savoir aussi dire stop, quoi.
Willy Messonas, Lyon-Dijon, le chronomètre tourne.
Oui, exactement. Il reste 2 minutes 30 dans le temps additionnel. Il y a eu 6 minutes de temps additionnel, ce qui a soulevé pas mal d'espoir du côté du public lyonnais. Ça pousse, mais pas d'occasion franche du côté des hommes de Rudy Garcia, qui insiste à nouveau avec ce centre dans la surface de réparation, mais renvoyé par la défense dijonnaise, à nouveau récupérée par Lyon qui joue haut. Dijon se contente de défendre dans ces dernières minutes.
On se retrouvera pour la fin du match bien réel tout à l'heure, et le score final de Lyon-Dijon avec Cindy Colmenares, Baptiste Després du Figaro, Florian Gazan et David Ayello de Yahoo Sport pour les 5 dernières minutes d'En fait le match. À tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Willy Messonas, Lyon-Dijon, c'est fini ?
Non, la dernière accélération lyonnaise peut-être. Il reste 20 secondes à mon chronomètre, mais le renversement de jeu de Traoré ne donnera rien. Derrière, la poussette inutile de Ryan Cherki, ça va permettre aux Dijonais de gagner du temps, de récupérer le ballon, de frapper un coup franc quasiment au niveau de poteau de corner. Lyon qui se dirige donc vers son 8e match d'affilée sans victoire en championnat. Et puis surtout, son 3e match d'affilée à domicile en championnat sans marquer de but. Ça, ouais. C'est plutôt impressionnant. Voilà le coup de sifflet final de cette rencontre donnée par M. Schneider. Les sifflets, évidemment, du public lyonnais. Nouvelle contre-performance de l'OL. Bien malade, décidément. Rudy Garcia a du travail.
Oui, on attendra évidemment les réactions, puisqu'on vivra évidemment ensemble avec Christian Olivier, le multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France, Philippe Sanfourche, Giovanni Castaldi et Quentin, qui seront avec nous toute la soirée pour vivre cette journée de Ligue 1. On va rapidement aborder 2-3 sujets. Gignac qui marque son 100e but avec les Tigresses, Florian Gazan.
Extraordinaire.
Fin de carrière fabuleuse.
Non, mais génial. Quand il est parti au Mexique, tout le monde s'est dit, parce qu'évidemment, on est un petit peu eurocentré, donc on ne connaît pas ce championnat, qui est un super championnat où il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'industriels qui investissent beaucoup.
Et
spectacle aussi.
Voilà, on se dit qu'est-ce qu'il va faire là-bas.
C'est génial.
Et il s'éclate, c'est extraordinaire. C'est un peu pour moi, c'est voilà, c'est comme Ribéry, comme Valbuena. C'est des gens qui ont envie, qui aiment le foot, qui aiment jouer et qui aiment ces ambiances-là. Et je trouve ça génial pour Gignac.
C'est Nicole Ménares, un petit mot sur Dédé.
Il respire les foot, c'est excellent en fait ce qu'il a réussi là-bas et c'est la meilleure des façons de finir en tout cas son champion.
C'est pas facile de se relancer en plus avec le poteau à l'Euro, on peut plonger, on peut se dire c'est terminé, les blessures etc, je pars là-bas un peu en vacances, non pas du tout, il y a des buts, c'est fabuleux.
David Ayello. Peut-être pour lui, vraiment je parle pour lui, c'est au niveau de la sélection, c'est qu'il a fait en faisant ce choix, qui est un choix, en plus un choix de vie, hein, parce que partir au Mexique c'est quelque chose de très fort, et en plus
ça fait 4 ans qu'il est là-bas.
Oui mais il est mexicain désormais.
Il est adoré.
Mais du coup effectivement il a fait un trait sur la sélection, donc ça se respecte, mais c'est un choix fort.
Oui mais enfin c'est pas totalement compréhensible, excuse-moi, mais enfin entre un Gignac qui claque but sur but au Mexique et un Giroud qui joue pas en Angleterre.
Non, mais après, ce que je veux dire, c'est qu'il le savait en faisant ça.
Oui, mais enfin, il y a des avions, même on peut voir les matchs à la télé.
C'est compliqué quand même.
Non, mais le fait que tu sois condamné parce que tu vas jouer au Mexique, me semble quand même un peu limité. Quoi.
Je parlais pas.
Non, mais
juste
condamné
pas
pour lui. Oui, c'est vrai que ça donnait une indication plutôt. Je vais là-bas. Maintenant,
c'est souvent les cas.
Je sais que c'est mort moi-même, mais bon, c'est vrai que Florian a raison au fond. Griezmann qui est sur les 3 buts de Barcelone aujourd'hui, impliqué sur les 3 buts, c'est on a l'impression qu'enfin ça va, ça match.
Enfin, c'est un super joueur Griezmann, il faut juste qu'il s'adapte au jeu du Barça, ça joue pas du tout comme l'Atlético Madrid, il y a une période d'adaptation. Voilà, à l'Atlético il faisait un petit peu ce qu'il voulait, c'était la star, maintenant il faut qu'il apprenne à jouer à la barcelonaise, donc bien rester sur son côté, bien respecter le plan de jeu, et il a du talent, il va y arriver, et on peut dire ce qu'on veut, Messi et compagnie ils sont pas idiots, avoir Griezmann avec eux c'est quand même mieux qu'avoir Neymar blessé.
Oui,
c'est sûr, même conclusion. Et surtout, s'il il est tellement utile, il sert tellement ses coéquipiers, que comment ne pas l'adopter? En plus, il a exactement la bonne personnalité, la bonne façon aussi de s'exprimer sur les terrains, mais aussi en dehors du terrain. Après, il faut le dire, la vaisselle en face était tout à fait à leur portée. C'était assez facile pour eux. Il y a aussi De Jong qui a permis aussi de relancer et de mettre de l'huile dans cette machine. Donc, il y a un peu ça qui rentre en jeu. Mais en tout cas, je pense qu'il est très bien adapté.
Baptiste Després du Figaro.
Il va se rendre encore plus compte de son QI football, je trouve, à Griezmann. On le sait déjà. Mais à l'Atlético Madrid, c'était la tête de gondole. C'était Simeone, c'était Griezmann en numéro 1. Et les autres, on verra autour. Et là, aujourd'hui, il est derrière Messi, peut-être derrière Suarez. Enfin, à voir. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est intelligent. C'est un joueur qui n'est pas là pour briller non plus. Alors, il adore ça. Mais se mettre au service d'eux, c'est pas un souci. On le voit en équipe de France. Mbappé brille. Ça le gêne pas d'être derrière. Non, la machine est en route, je pense.
David Ayello, Yahoo Sport.
On se rend compte effectivement de son QI football, peut-être aussi de son QE. De son quotient émotionnel, parce qu'il a quand même géré cette situation de façon extrêmement intéressante. Il y a plein de joueurs qui auraient pu se braquer, etc. On a bien compris qu'il a un peu fait le dos rond le temps que ça se passe, cette histoire-là. Et puis, comme le disait Florian, à un moment, tous ces joueurs-là ensemble, ça peut être fabuleux. Et avec un joueur effectivement aussi intelligent sur le terrain et dans ses relations avec les autres, voilà, il a pris son parti, il n'a pas joué la star et forcément ça va bien se terminer.
Bon, c'est un peu de la provocation, mais j'ai regardé. Pour l'instant, il est sur les mêmes bases que Messi. Hein, c'est 0,33 buts par match, 0,5 passes décisives par match.
Non, mais c'est incompatible.
Il a les mêmes stats que Messi pour le moment.
Ballon d'or. Bien sûr.
Un petit mot rapide sur le Classico qui est, pour des raisons politiques et d'incidents, qui est reporté. David Ayello, Yahoo Sport, le Black Classico, ouais, Barcelone-Real.
C'est un peu dommage, ce que j'ai pas trop compris, c'est pourquoi on n'avait pas tout simplement inversé le match, l'ordre des matchs. Bon, après, il y a peut-être des questions de logistique qui font que, mais j'ai l'impression que le Real, de toute façon, voulait surtout jouer le match à Santiago Bernabéu sans contrepartie. Donc voilà, on connaît la rivalité entre les deux clubs. Donc, c'est de bonne guerre. C'est vrai que la politique et les faits de société viennent se mêler du football, c'est jamais
mais
souhaitable.
Ça, c'est Piqué aussi. C'est Piqué qui a commencé également, parce qu'il a des positions qui sont quand même très fortes. Hein. Chacun a ses positions, on les respecte, mais qui sont très fortes et qui les fait rentrer également. Les clubs ont aussi communiqué, les Barça, du soutien des personnes qui manifestent. Donc forcément, ça crée une ambiance. Et de toute façon, les plus importants, c'est toujours de garder une ambiance qui puisse être sûre. Voilà.
Florian Gazan, petit mot, un dernier mot sur Barcelone.
Dans ces cas-là, le football malheureusement pèse pas à grand chose. Je veux dire, la situation est suffisamment grave en Catalogne pour pas rajouter d'huile sur le feu. On sait que ces classicos, c'est des matchs extrêmement compliqués à gérer. On se souvient de Boca River. Voilà, Real
Barça.
Oui, mais
symboliquement, c'est un match qui pèse.
Baptiste Després, un mot de conclusion là-dessus.
Je veux juste rajouter quelque chose. C'est la sécurité prime dans ces cas-là, parce que quand vous avez des faits extra sportifs, je vais y arriver. le foot passe vraiment au second plan.
19h30, multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France. Christian Olivier, là, bonsoir.
Bonsoir, messieurs. Et moi, j'ai la réponse à fournir à l'ami Aiello. C'est que le match ne pouvait pas être inversé car Barcelone ne le souhaitait pas, estimant que l'équité sportive, puisque Barcelone devait recevoir à l'occasion du match aller, ne serait pas respectée. Premier point. Et finalement, ça a arrangé les deux équipes de repousser en décembre ce match, car cette rencontre arrivait sinon 3 jours avant la dernière journée de Ligue des Champions. Ouais. Donc ça leur permet de se préparer au mieux pour une journée Ligue des Champions attendue avec beaucoup d'impatience.
Vous avez le menu ?
Le menu
de la soirée.
C'est pas un menu, c'est à la carte, monsieur.
Ah, c'est à la carte. Je croyais qu'il y avait menu à la carte.
Il y a un plat du jour.
Dans les grands restos, il y a menu à la carte.
Il y a un plat du jour.
Plateau de fruits de mer ou pas ?
Metz, Nantes, Toulouse, Lille, Angers, Brest, Nîmes, Amiens, Reims, Montpellier. Puis vous savez, il y a le 5 à 7 désormais qui fait fureur, le 5 à 7. Alors il y a eu le 5 à 7 de Aulas, il y a eu le 5 à 7 de Romeillé. 5 à 7 minutes d'interview.
Oui, parce, que, non, parce que le 5 à 7,
oui, c'est autre chose. Hein.
Là, non, 5 à 7, bon. Voilà, mais je vois que vous êtes très attentif.
Non, bah oui, je préfère parce que vous allez dans des terrains.
Avec toujours donc, des informations, une interview coulisses. Et là, ce soir, nous mettrons fin à une légende urbaine concernant l'arbitrage français et l'arbitrage vidéo. Donc le 5 à 7 avec Pascal Garibian. Je n'en dis pas plus. Rendez-vous à 22h05.
Merci beaucoup. Vous serez avec Giovanni Castaldi. Bien sûr.